citoyens, vous avez une expérience de cela. Voilà la loi de cet expérience. Je crois que c'est extrêmement important de le mettre en évidence. Ça signifie donc, en tout cas, et je crois que c'est une deuxième implication à retrouver, qu'il y a une certaine manière d'être homme qui est compatible avec cette loi. Avec cette loi qui est donnée comme obligation. Parce qu'au fond, Maïmonide l'a bien mis en évidence d'ailleurs, en particulier dans le Guide des Égarés, et aussi dans certaines de ses lettres. Si nous sommes des monothéistes conséquents, il est évident que toute existence est sous le regard de la même destinée, à des niveaux différents, en estime différente. Mais il y a un cas particulier d'Israël, c'est qu'Israël a obligation de la vertu, alors que pour toute autre manière d'être homme, pour toute autre créature, la vertu est une proposition d'idéal. Alors qu'il y a la catégorie de l'obligation pour Israël. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. Ce qui est vertu pour tout être qui est sensible aux valeurs dont parle la Torah, est obligation, chova, mitzvah pour Israël. C'est le lien à notre sujet. Parce que nous avons eu cette expérience de preuve par la sortie d'Égypte. Nous sommes investis d'obligations parce que nous sommes dans la situation naturelle, existentielle, d'avoir une connaissance de l'expérience qu'on va faire. C'est dit en toute clair, dans énormément de versets. Et en particulier dans le contexte des Dicomans. Vous reliez le chapitre 19 de l'Exode au chapitre 20, où il y a les Dicomans, et vous verrez cette articulation de raisonnement. Puisque vous avez eu l'expérience de la sortie d'Égypte, alors vous deviendrez le peuple de la Torah. Donc il y a bien un lien très profond entre ces deux pôles, si je veux dire, Yetziat Mitzrayim, Matan Torah. Mais sur ces deux principes, deuxième principe, on retrouve l'importance de nous avoir énuméré les valeurs qu'il faut unifier pour être ce peuple arrivé au pied du Sinaï. La vertu d'Abraham, puis la vertu d'Isaac, puis la vertu de Jacob, ces trois vertus unifiées dans un certain ordre et dans un certain accent, alors seulement on est au pied du Sinaï. Voilà, si c'est suffisamment clair, je crois que nous avons vu déjà deux principes importants. La période qui sépare Pessah de Shavuot est une période vulnérable. Lorsqu'il y a échec, il y a deuil. Lorsqu'il y a ligne de réussite, il y a commémoration de joie. Et puis deuxièmement, ce n'est pas seulement les événements de Pessah de Shavuot qui sont liés, mais tout ce qu'il y a avant la sortie d'Égypte et tout ce qu'il y a après le signe. Tout ce que nous apprenons comme enseignement du récit de la Torah concernant le temps de l'histoire humaine à travers le temps des patriarches et tout ce que nous apprenons de la Torah concernant la découverte des valeurs de la loi. Toutes les formules que j'ai employées peuvent servir en elles-mêmes de tête de chapitre de ces sujets particuliers. Mais je crois qu'il était nécessaire de les rassembler pour comprendre de nouveau ce rassemblement entre deux dates qui apparemment ont été autonomisées mais qui ont été ne le sont pas. Je voudrais terminer cette première introduction par la lecture d'un midrash, en particulier qui se trouve dans le Midrash Rabba, sur la paracha de Yitro, où se trouvent les dix commandements. Je vous raconte d'abord le contexte de ce mirage. C'est que lorsque Moïse est monté au ciel pour recevoir et chercher la Torah, les anges se sont opposés. Vous savez cela. Mais c'est ce mirage. Il est introduit par une exégèse très précise sur des versets de Psaume. Je vous épargne cette exégèse, c'est dommage d'ailleurs, mais je vous renvoie à l'étude du Midrash pour lui-même, et on assiste à cet étonnement, indignation des êtres qu'on appelle les anges, les êtres absolus, les êtres de pureté, les êtres de sainteté, devant cette prétention d'un être du monde d'en bas, de chair et de sang, Yeloudisha, dit le verset, disons un homme, qui monte là-haut, chercher la loi d'en haut pour la descendre en bas. Imaginez la réaction des anges. Donc, devant cette prétention de Moïse. Le Midrash va beaucoup plus loin, il n'y a pas seulement refus, il y a le fait que le Tachara, à ce moment-là, Bichou, Malaché à Chavet, Nibgoa à Beroche, les anges ont voulu atteindre Moïse, le lui faire du mal, puisque lui faire du mal, mais le détruire. Je pourrais le formuler peut-être de la manière suivante. Lorsqu'on sait ce que l'homme a fait du monde, on va faire un peu d'écologie, c'est ce qu'on appelle, il a sali le monde. Alors, imaginons, et en plus, la Torah, imaginez qu'est-ce que deviendrait la Torah entre les mains des hommes. C'est le raisonnement des anges. J'en dis pas plus. Et alors, les anges refusent. Cette loi de l'absolu des valeurs n'appartient pas au monde d'en bas. C'est pourquoi le verset des psaumes sur lequel se base le Midrash dit, par allusion à cette ascension de Moïse, si j'ose dire, pour monter là-haut, chercher la Torah et la redescendre en bas, ça ne sait pas parce qu'il est en haut. Eh bien, il dit, Alita la Marom, Shabita Shevi. Voilà ce que dit le verset. Tu es monté dans les hauteurs, Alita la Marom, Shabita Shevi. Tu as fait captif une captivité, comme dit une proie. Mais c'est le même mot en hébreu. Regardez bien comment s'exprime le Midrash. Ça veut dire que la Torah était captive là-haut. Et que Moïse est monté là-haut, faire captif ce qui était captif là-haut. Ça ne veut pas dire ça. Simplement, tu es allé chercher une proie, en bas, elle est la proie. Ah ouais, elle est chez elle. Sinon, il n'y aurait pas cette redondance dans le verset. J'habite à chez lui. Ça veut dire que la Torah en haut était captive. Donc, il y a un dévoilement d'une dimension assez profonde dans ce mythe. En réalité, s'il y a un absolu, ça concerne la réalité, ça concerne l'existence. Que la Torah concerne le monde d'en bas. Mais tant qu'il ne mérite pas le monde d'en bas, alors il y a la contestation des anges. Je veux dire, de nouveau, nous sommes en monothéisme intégral. Le dualisme consiste à dire l'ordre de la vérité, l'ordre de la réalité sont irrémédiablement disjoints. Pour l'approche monothéiste de la vérité, il est évident que la vérité concerne la réalité. C'est ça le monothéisme. Que le vrai sens de la Torah, c'est la Torah qui concerne la réalité. Et par conséquent, la Torah, tant qu'elle est en haut, est captive. Alors Moïse est allé délivrer la Torah dans l'intention du Créateur et concerne le monde d'en bas. Sinon, on peut montrer pourquoi il a fait un monde d'en bas. Dans la cohérence du monothéisme, bien entendu. Et donc, le verset commence par dire « Alita dans ma Rome », c'est une première félicitation, si vous voulez. Un homme qui arrive à monter en haut. En haut, où il y a l'unité des valeurs. En bas, il y a dispersion des valeurs. Tu as réussi ça, alors j'habite à chez lui. Là, les exégèses du Midrash continuent. Peut-être qu'on pourrait croire que il ne s'agit que d'avoir pris quelque chose. Et par force, on va dire prédation. Le verset continue en disant la carta. Tu as pris en méritant la carta. Hein. Pas seulement j'habite à chez lui, tu as volé, mais la carta. Tu as pris en ayant droit. Alors, on pouvait croire que tu as dû payer pour ça. Non, la carta matanot baada. Tu as pris des cadeaux dans l'homme. Bon, un verset très très hermétique. Alors, je vous laisse les exégèses de côté. On a à peine commencé. Et je vous lis le Midrash. À ce moment-là, les anges donc, ont voulu porter atteinte à Moïse. Asa akadosh baruch. Dieu a modifié. La starpanache est penchée, la physionomie de Moïse, doma les Abraham en la rendant semblable à celle d'Abraham. C'est-à-dire, avant que Moïse ne ressemble à Abraham, les anges, d'après ce Midrash, ne veulent pas que Moïse reçoive le Torah. Mais après que Moïse ait pris le visage d'Abraham, c'est le conseil de Dieu, alors Dieu dit aux anges, « Iatemit vaishim, heaven, est-ce qu'on n'est pas honte de lui ?» Et les anges étaient descendus en bas et avaient pu manger chez Abraham. Ça voulait dire donc qu'on peut pratiquer la Torah en bas, puisque les anges mangeaient caché chez Abraham. Vous avez compris la cohérence du Midrash. Elle est vraiment du fait, mais bon, vous n'avez pas honte de la vertu d'Abraham qui vous a donné l'hospitalité. Ça, c'est dans l'ordre des vertus. Mais par rapport au sujet même, alors le Midrash arrivant de cette manière suivante, alors qu'on pourrait admettre que Moïse, la loi seule et que la loi, les anges s'opposeraient, Mais si Moïse, la loi, prend le visage d'Abraham, de la vertu d'Abraham, alors les anges sont dans un état de honte. C'est ce que Dieu leur dit. L'osou chez Arabtemetlo, Arabtemetobeto, n'est-ce pas celui-là chez qui vous êtes descendu et vous avez mangé chez lui? Amarakadosh Baruch Hu les mange. Alors Dieu a dit à lui, l'onik nalecha Torah est la bisrout Abraham. La Torah ne t'a été donnée que par le mérite d'Abraham. Chenéma, ainsi que dit la deuxième partie du verset, c'est là que nous retrouvons notre exégèse difficile. La karta matanot ba'adam, tu as pris en méritant des cadeaux, des dons, la Torah, matan Torah, ba'adam, grâce à celui qui s'appelle Adam, mais en Adam a murkan el Abraham, et le Adam dont on parle ici n'est qu'Abraham, dont un verset dans le prophète Josué, chapitre 14, verset 15. Le verset dit « Ha'adam agadol ba'anakim » l'homme grand parmi les hommes, parmi les géants, c'est-à-dire. Mais vous avez compris quel est le point. C'est-à-dire c'est par le mérite que Moïse est relié à Abraham que les anges ne peuvent rien, en rien s'opposer au fait que la Torah de l'absolu lui soit donnée pour les hommes. Mais je crois là qu'il y a là une leçon extrêmement importante pour nous. Si on coupe l'aspect de la loi « Matan Torah » de l'histoire qui commence à Abraham et qui lui à la sortie d'Égypte, alors les anges s'opposent. Et arrive le Makkot, si je vous dis. Vous avez maintenant rassemblé le sujet. Mais si Moïse prend le visage d'Abraham, se relie aux vertus des patriarches qui commencent avec Abraham, alors les anges sont obligés de reconnaître que la Torah concerne, la Torah des valeurs de l'absolu, la loi concerne vraiment le monde d'en bas. Voilà, c'est un des exemples de nos textes concernant cette période qui relie Pessah à Shavuot. Et pour le relier au fond même de l'explication que vous avez donnée du Midrash, le danger, c'est la division. Alors par conséquent, la protection, le mérite, si j'ose dire, c'est l'unité. Et vous savez à quel point cette histoire qui nous est racontée, qui commence à Abraham, est la recherche du principe d'unité des peuples. Je crois que ce serait très plat d'en tirer des conclusions moralisantes immédiates ou contemporaines, vous les comprenez par vous-même. Chaque fois que ce peuple est divisé, alors sa sortie d'Égypte est en question. Chaque fois qu'il tente de se réunifier, alors sa sortie d'Égypte se dirige vers Shavuot. Et très certainement, nous vivons une époque assez caractéristique, puisque c'est de notre temps que ce temps de commémoration du Homer commence à se remplir de jours de commémoration et chronologiquement, elle se dirige vers Shavuot. Je ne sais pas ce qui se passera entre vendredi, Yom Shavuot, Yom Shavuot et le jour de Shavuot, mais enfin, il se passera peut-être quelque chose qu'on aura commémoré. Un jour, je n'ai rien dit, c'est une hypothèse. Et je voulais simplement, pour achever cette conclusion, vous dire un peu les sentiments d'inquiétude que j'ai eu en arrivant cette fois-ci dans ce voyage, en lisant ce qui se passe dans les journaux. Deux événements extrêmement frappants me sont apparus. D'abord, une controverse autour de la décision de l'Église catholique d'installer un couvent des Carmélites à Auschwitz. Et puis, d'une part, et d'autre part, cette thèse qui est parue à l'Université de Nantes, je crois, concernant la négation de la Shoah. Alors, c'est très subjectif ce que je veux dire là, mais ça m'a fait expérimenter cette dimension de vulnérabilité de la période du Homer. Des choses qu'on aurait pensé être en droit de considérer comme irréversibles, inatteignables, intouchables, sont mises en question avec une telle... En ce qui concerne le premier point, je veux dire que les choses sont beaucoup plus vastes, certainement, qu'on pourrait le percevoir. Qu'il puisse arriver cela, qu'une civilisation aussi énorme que la chrétienté ne se rende pas compte de l'atteinte de sensibilité, plus profondément de sensibilité qu'il y a à prétendre annexer Auschwitz au couvent des Carmélites, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Et je vous dirais en particulier, je vais en parler à. Là, j'ai été personnellement assez atteint du fait de savoir que le père était avait officiellement défendu cette position. Je dois vous dire que ça n'en tâche rien l'amitié que j'ai pour lui. C'est un homme qui a déjà l'âge qu'il a, ce qu'il a fait, il l'a fait. On est jugé sur les actes ponctuellement, chacun pour lui-même. Mon frère, ceux qui n'avaient pas de motif d'une amitié personnelle vis-à-vis du père, qui ne pouvait qu'être choqué de voir quelqu'un qui a tellement défendu les juifs après l'événement, en position de manière aussi peu convaincante, je ne pourrais pas dire des mots trop forts. Et là, j'ajouterais quelque chose de plus. C'est très inquiétant. J'ajouterais quelque chose de plus. Je me suis laissé dire, on m'a rapporté qu'un rabbin de Paris a dit ça, quelque chose comme cela, les musulmans n'auraient jamais fait. Ça, ça vient d'écrire. Alors il a oublié qu'est-ce qu'il y a sur la montagne du Temple. Il n'y a pas un couvent des Carmélites, il y a une mosquée. Et qu'est-ce que c'était que la montagne du Temple? Au moment de la période dont nous parlons, c'était là où il y a eu les massacres des derniers judéens résistants aux Romains, l'Auschwitz de ce temps-là, la Hauban. Là-dessus, il y a une mosquée. On reste impassible. Je crois que c'est l'accoutumance du fait qu'il y a longtemps, mais nous sommes un peuple qui n'a jamais eu d'accoutumance à ces choses-là. Si je vous vois, on ne s'accoutume pas. C'est-à-dire, s'il y a blasphème d'un côté, il y a scandale de l'autre, et ainsi de suite. Alors, je crois qu'il faut rester extrêmement vigilant. Cet effort de réussir une sortie d'Égypte jusqu'au bout se heurte à une vulnérabilité considérable et dans toutes les dimensions. Voilà, c'est un peu l'essentiel du principe que je voulais mettre en évidence concernant cette période. Et si vous avez des questions, je suis prêt. Je
voudrais juste vous demander si vous avez lu l'article de Lévinas qui était sur la même page.
Non.
L'article du Père, ok. Et un article de Lévinas répondant au Père.
Vous ne
les avez pas, je m'arrangeais pour
vous. Ah, je vous en prie. Vous pouvez envoyer directement à Jérusalem parce que je pars demain.
Oui, non.
Mais je vous dirai ceci. Tout simplement, tout à l'heure, j'ai acheté le Nouvel Observateur qui vient de paraître.
Oui.
Et j'ai vu les réponses qui ont été faites au Père Riquet. Et j'ai pas lu l'article du Père Riquet encore. Mais d'après les réponses, je devine quelle est sa position.
Je peux vous envoyer, l'article du Père Riquet, c'est une rationalisation admirable, en fait.
Oui.
Tandis que l'article de Lévinas, il y a de l'âme.
Oui. D'accord. Bon. Mais je n'ai pas lu non plus l'article de M. Lévinas, mais non, ce que je veux dire, c'est que...
Mais il y a eu un évêque de Lyon qui a écrit, qui est passé à 7 sur 7, a dit qu'il était contre. Je crois que l'Église est très divisée là-dessus.
Mais enfin, que l'Église soit divisée, c'est normal. L'Église est un ensemble de conscience. Mais que la question ait pu se poser...
Non, mais à mon avis, le père Riquet, je connais bien, vous savez ce qu'il a dit à propos de la mort de Dassault, qu'il a donné l'extrême onction à Marcel Dassault, parce que Marcel Dassault avait enfin compris que le christianisme était la prolongation du judaïsme.
Écoutez,
mais il est à côté de la plaque, il y a plein de chrétiens vraiment qui pensent.
Non, mais écoutez, que le père Riquet soit un chrétien, oui, c'est évident. On va demander à un chrétien de ne pas être chrétien.
Non, mais les chrétiens.
C'est pas ça le problème. Non, c'est un problème en soi, mais le problème grave, c'est le couvent des Carmélites d'Auschwitz. Parce qu'il y a là une continuation de l'usurpation d'identité qui a commencé de l'origine, et c'est ça qui est inquiétant. Bien, je voulais le signaler en particulier simplement cette coïncidence, cette convergence, que ces événements se produisent dans la période du
Hormuz.
Oui, dans l'ordre.
Carmélite, c'est uniquement une initiative assez séparée de religieuses belges, flamandes, pas très futées, qui met l'Église devant un cas impossible.
Ce que je ne comprends pas, c'est
un fait accompli.
Oui, ce que je ne comprends pas, c'est qu'étant donné la gravité du fait accompli, l'Église, le Vatican en tête, ne disent pas non. Un point simple, ce sont des catholiques ou ce ne sont pas des catholiques. Vous savez, ces explications, je les ai souvent entendues sur le fait que le Vatican ne reconnaisse pas l'État d'Israël, par exemple. Alors, on nous donne des réponses non convaincantes.
Oui,
alors, le fait en lui-même est assez inquiétant. Bon, je crois qu'on ferme la parenthèse là-dessus. Mais je crois que ça nous renvoie, peut-être parfois malgré nous, à une récupération intuitive de la signification du temps traditionnel que nous commémorons dans le temps du calendrier qui est assez poignante. Je ne sais pas comment dire cela. Bien, qui avait une autre question? Pardon, monsieur d'abord, ensuite.
Dans la question de l'unité, J'ai entendu sur Radio Communauté, il y a une personne qui fait des cours et qui disait par exemple que dans le but de l'unité, on devrait annuler les différentes entre Ashkenaz et Farad, faire un seul rite, faire... est-ce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien? Est-ce que...
Oui, c'est très bien, à condition qu'il s'agisse d'un Ashkenaz pratiquant et d'un Sfarad pratiquant, et qu'on parle de la chose sérieuse. C'est-à-dire si c'est vraiment deux rites qui s'unissent, et non pas à quelqu'un qui ne pratiquerait ni l'un ni l'autre et qui parlerait l'unité de choses qu'il ne connaît pas. Parce que, je veux dire, nous sommes un peuple un au niveau de la collectivité. Et de la même manière que dans chaque famille, chacun a son visage et chacun a son identité, ce qu'il faut c'est l'unité et non pas l'uniformité. Et lorsqu'on parle du contenu concret des valeurs, alors on s'aperçoit que chacun a le droit d'être ce qu'il est, mais l'essentiel, c'est d'être ensemble. C'est à l'échelle de la collectivité qu'il n'y a aucune différence entre le rite Sfarad et le rite Ashkenaz, c'est la même halakha. Mais à l'échelle des tribus, chaque tribu a des raisons de réaliser le rite qu'elle réalise au nom de la même Torah comme elle le réalise, au nom de la même Torah, j'ai dit bien. C'est-à-dire, un Sfarad qui pratiquerait le rite Ashkenaz, c'est un Sfarad déguisé. Et un Ashkenaz qui pratiquait le rite Sfarad, c'est un Ashkenaz déguisé. J'ai bien dit ce que je voulais dire, ok? Les enfants, les petits-enfants, les arrière petits-enfants, après s'être mariés ensemble, 10 générations, on verra, ok? Mais en attendant, chacun est ce qu'il est, il faut bien le comprendre. C'est peut-être pourquoi d'ailleurs, je tiens à le signaler, c'est un peu l'autre volet de votre question, le risque du heurt de cette division est d'autant plus accusé qu'on est plus pratiquant, parce que c'est là que ça devient sérieux, ces différences. Probablement. Tu vois, dans les ventes sociologiques des différentes manières d'être juif, moins on est pratiquant, moins on est sensible aux différences, plus on est pratiquant, plus on est sensible aux différences, mais c'est tout à fait normal. Lorsque les choses sont sérieuses, je crois que dans tous ces problèmes-là, mon midrash de la fin est une réponse. Chaque fois que Moïse prend le visage d'Abraham, ça s'arrange. Mais si Moïse fronce les sourcils, ça ne veut pas s'arranger. Vous comprenez ce que je veux dire? Si la loi se fait légale, il n'y a pas d'espoir que ça s'arrange. Si la loi se fait morale, parce qu'elle a commencé par l'exigence morale d'Abraham, alors l'unité revient. Si le matin de Torah est relié à la sortie d'Égypte, c'est un autre sujet, et si le vrai Torah s'est coupé la sortie d'Égypte, ce n'est plus ce que nous attendions, de la même manière que si la sortie d'Égypte est reliée à la Torah, c'est une vraie sortie d'Égypte. Si elle n'est pas reliée à la Torah, c'est une sortie d'Égypte qui peut échouer. C'est bien évident. Bien. Il y avait une autre question, monsieur. Oui.
Vous n'avez pas répondu au problème de pourquoi est-ce qu'on a dit une contre comme ça et celui comme ça.
Je ne sais pas si tu te rappelles, j'ai posé une question.
Oui, j'ai dit que vous avez une réponse.
Oui, si je n'entends pas, je vous proposerai une réponse.
Bon. Deuxièmement, je vais vous proposer le calendrier, parce que là on n'a pas le calendrier, vous demander quelles sont les coïncidences. Il y a beaucoup d'incidences, parce que beaucoup de fêtes commencent par le 15. 15 Nissan, 15 Tichri. Oui.
Ça c'est second. Je vais répondre immédiatement à cela. C'est le fait que le temps d'Israël est comparé au temps de la lune relié au temps du soleil. Alors le 15 c'est le jour de la pleine lune, de l'apogée de la lumière de la lune. Il y a deux exceptions dans le calendrier. Précisément Shavuot, qui n'est pas une date en soi, ni d'un premier du mois, ni d'un 15 du mois, mais 50e jour après le 15 du mois de Nissan, qui est Pessah, c'est même la clôture de Pessah. Donc ta question converge donc d'autant plus dans le sujet. Et d'autre part, Hanouka, que j'ai cité, qui est la seule fête du calendrier qui n'est pas comptée selon le temps de la lune, mais selon le temps du soleil. Il y a des raisons pour cela, si vous voulez, on peut en parler, mais ce serait trop long. Kippour est relié au... Je vais vous donner deux exemples de calendrier. Kippour est relié au premier... à Rosh Hashanah. En ce qui concerne Kippour, la question principale, c'est que, apparemment, toutes les autres dates, c'est une commémoration historique. Kippour, apparemment, ne serait pas, je dis bien apparemment, une commémoration historique. En réalité, elle l'est. Et elle se relie à Shavuot, 40 jours après Shavuot. Moïse, monté sur la montagne à Shavuot, est redescendu et a assisté à la fête du Hodor, a brisé les premières tables de la loi. C'était le 17 Tammuz. Il est remonté 40 jours pour prier et plus 40 jours pour obtenir les deuxièmes tables de la loi, et il est redescendu le 10 Tishri, qui est le jour de Kippour historique de la première, du premier pardon, du premier grand pardon. Et donc, ce n'est qu'une exception apparente.
Vous avez donné la période contemporaine, celle qui sera en connotation positive, dans la première partie de François Jour.
Ah non, c'est entre
la négative, la première partie, la deuxième, et les autres aussi dans la deuxième partie.
Il semble, mais ça aurait été entremêlé.
Est-ce qu'il y a un sens particulier au fait que ça se divise deux tiers, un tiers, des chansons?
Non, c'est pas une question absurde, c'est tout simplement une question que je n'ai pas étudiée, je ne peux pas répondre. Mais j'étais surtout frappé par ce rassemblement de dates, cette convergence dans cette période. C'est-à-dire, nous vivons cette période, au fond, on pourrait le dire comme ça, nos différentes générations depuis peut-être 1917, où les grandes catastrophes ont commencé en même temps que les grandes libérations. Eh bien, c'est une longue période de Homère que nous sommes en train de vivre et qui est très vulnérable. J'ai cité, et ce n'est pas anecdotique, ponctuel, ces deux éléments, d'autres, qui convergent sur cette vulnérabilité. Est-ce que c'est intégré, la réconciliation? Est-ce que c'est une illusion? Tout ça étant en question, tout ça étant en Homère. Le pape est venu à la synagogue de Rome. Je pense que c'est un événement historique. Est-il ambigu? Est-ce l'envers d'une médaille? Est-ce un pas en avant, trois pas en arrière? Je ne sais pas comment dire. Mais ça, l'avenir le dira. Il n'en reste pas moins que c'est un événement historique. Mais c'est un événement d'autant plus historique que l'Église tente de justifier qu'il y a un couvent des Carmélites. Alors, c'est évident. Ça ne signifie pas que la prière des Carmélites, le silence des Carmélites, je dirais, ne soit pas respectable. Ça ne signifie pas que la prière d'un musulman ne soit pas respectable. Mais pourquoi sur la montagne du Temple? Pourquoi au Chemin? Pourquoi cette usurpation d'identité? Okay. Ça, c'est monsieur.
Vous avez évoqué la vulnérabilité de la période qui
sépare.
Vous avez évoqué la vulnérabilité de la période qui sépare Shavuot, enfin Pessah de Shavuot, en citant les deux exemples que vous avez pris. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est encore plus lié, si vous voulez, au peuple juif lui-même, c'est-à-dire la vulnérabilité par rapport à chaque individu de se conformer aux exigences morales de la loi. Et que c'est ça la vraie vulnérabilité, et plus au niveau du peuple juif, puisque finalement, entre la période de la sortie et puis la période du don de la loi, ils étaient un peuple entier, non soumis aux contingences des autres peuples, et que tout le problème, c'était justement un problème, disons, inter le peuple juif.
Oui, je crois que vous dites à votre manière ce que je vais peut-être essayer d'indiquer. Si vous permettez, je reprendrai une des formules que j'ai dit tout à l'heure, en citant le Midrash de la fin. Si Moïse prend le visage d'Abraham, si la loi est fondée sur les valeurs morales, les anges acceptent. Mais si Moïse ne prend pas le visage d'Abraham, alors nous sommes en présence d'un danger qui, au fond, guette surtout une tradition comme la tradition juive, d'une légalité coupée de la moralité. Et je ne voudrais pas te donner d'exemple trop concret, mais je crois que nous vivons ces problèmes dans énormément de... Je me permettrai de vous raconter ce à quoi j'ai assisté la semaine dernière en Suisse. Il y avait un colloque de médecins et de rabbins sur les techniques de la médecine moderne, et sur le sujet, l'éthique médicale, et que dit la halakha à propos des techniques modernes de la médecine. C'était, à mon sens, un colloque de très haut niveau. Et, pardon, ça a eu lieu sur certains sujets ici. Et il y avait des professeurs de médecine, des chercheurs, des halakhistes d'Israël, d'Angleterre, d'Amérique aussi. Et j'ai eu personnellement, alors je voudrais indiquer à l'administration de Rachid que c'est pas à diffuser tout cela, la cassette. Ça reste entre nous. J'ai eu personnellement trois impressions assez fortes. Je crois qu'il y a eu un événement qui, à mon sens, est peut-être historique. Les organisateurs ont cherché à donner une sorte de symbolisation à ce congrès en la faisant à Bâle, avec un rappel du congrès de Bâle, dans la salle d'ailleurs, c'est agrandi, tout ce que vous voudrez, c'était assez mouvant, et la communauté de Bâle avait de quoi nous recevoir à la Valoise, c'est une très belle ville d'ailleurs, et je ne sais pas si on dit à la Valoise, je crois que c'est la première fois, en tout cas, dans mon expérience, que des juifs non religieux, qui sont des sommités de la science, et des rabbins, qui étaient pratiquement tous, disons la plupart d'entre eux, sauf un, c'est moi qui vous parle, des grands maîtres de la halakha, se sont rencontrés, découverts, connus, sympathisés, et une sympathisation, si j'ose dire, entre Datim et non-Datim à ce niveau-là, c'est assez historique. C'est un niveau assez... Nous avons tous senti un sérieux de la recherche morale derrière les problèmes très épineux de juridisme à tous les niveaux et de techniques extrêmement avancées. Nous avons le frisson ce que les médecins risquent d'être capables de faire. C'est pas notre sujet. Et d'un côté comme de l'autre, ce souci de rester accroché aux valeurs morales malgré les problèmes que l'on avait étudiés. Des deux côtés, il y avait danger. La deuxième impression que j'ai eue, c'est une autre manière de vivre les rapports entre Israël et la diaspora. Et à un niveau qu'on pourrait appeler vraiment Torah.